Europe Matin.
Le 7-9.
Mathieu Béliard.
Vous êtes sur Europe 1. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous écoutez Le Monde Changer. Europe 1, il est 7h.
Désormais, toutes les personnes qui sont âgées de 50 ans et plus et qui ont ce qu'on appelle les comorbidités peuvent se faire vacciner avec AstraZeneca sans limite d'âge.
Le vaccin AstraZeneca nous permettra-t-il de sortir plus vite des restrictions ? La vaccination va en tout cas s'accélérer alors que l'Europe précise de plus en plus son projet de passe sanitaire. Nicolas Sarkozy fait appel de sa condamnation pour corruption. 1 an de prison ferme pour un ex-président, c'est inédit. La défense dénonce des magistrats aux ordres. Sur quelle base ? Ce sera le coup de fil du journal de 7h. Et puis, est-ce bon signe pour les producteurs ? La bataille sur les prix agricoles se poursuit. Négociations prolongées entre industriels et grandes distributions. Juste après ce journal, l'éclairage éco, Nicolas Barré. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu. Faut-il faire plus pour la relance ? Faut-il dépenser plus et plus vite ? L'enveloppe des 100 milliards est-elle suffisante ? Le débat est ouvert.
Avant le regard international de Vincent Hervouette, l'édito sport de Virginie Fulpin. Et puis nous retrouverons Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Depuis combien de temps vous n'avez pas fait une grasse matinée ?
Oh là,
ça fait
même
des
pas.
Lustres.
Oui, des lustres.
Ben voilà, d'où vient cette expression ?
Très bon réveil à toutes et à tous. Vous écoutez Europe 1, il est 7h01.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Et le journal de 7h, c'est avec vous, Théo Manval. Bonjour Théo.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. L'espoir d'un coup d'accélérateur ce matin. Emmanuel Macron nous demandait hier de tenir encore 4 à 6 semaines avant le bout du tunnel, grâce, espère-t-il, à la vaccination. Eh bien, son gouvernement dispose aujourd'hui d'un levier de plus. Le vaccin AstraZeneca ne sera plus réservé aux moins de 65 ans. Les données manquaient jusqu'ici, mais une étude écossaise confirme son efficacité chez les plus âgés. Il va donc pouvoir être administré au-delà de cet âge, comme l'a annoncé hier soir sur France 2, Olivier Véran.
La Haute Autorité de Santé considère désormais que tous les vaccins dont nous disposons en France, le AstraZeneca, le Pfizer et le Moderna, ont une efficacité qualifiée de remarquable pour préserver les gens et les protéger des risques de formes graves du Covid. Ainsi, je peux acter que désormais, toutes les personnes qui sont âgées de 50 ans et plus et qui ont ce qu'on appelle des comorbidités, des fragilités, comme le diabète, l'hypertension, un antécédent de cancer, peuvent se faire vacciner avec AstraZeneca sans limite d'âge, donc les 50 ans et plus, incluant les 65-75 ans, chez leur médecin traitant, dans l'hôpital qui les suit lorsqu'ils ont une maladie chronique, et bientôt dans quelques jours, en pharmacie. Et pour les personnes qui ont 75 ans et plus, c'est toujours le Pfizer ou le Moderna en centre de vaccination.
Olivier Véran, hier soir aux 20h de France 2, qui confirme aussi qu'une seule dose de vaccin sera nécessaire pour ceux qui ont déjà contracté le Covid.
Et justement, avoir guéri de la maladie ou avoir été vacciné pourra bien nous permettre de voyager plus librement cet été en Europe. C'est en tout cas le sens du passeport sanitaire que prépare la Commission européenne. Bonjour Isabelle Horry.
Bonjour.
Ce ne sera pas uniquement un passeport vaccinal, hein, donc, mais un passe vert comme le feu vert, un passe que réclamaient la Grèce, l'Espagne ou encore l'Autriche.
Oui, après des semaines d'hésitation, le passeport sanitaire européen semble enfin sur les rails. Bruxelles présentera son projet de loi dans 2 semaines. Mais attention, ce document ne sera pas juste un certificat vaccinal, selon le commissaire européen Margaritis Skinas.
Notre priorité absolue, c'est d'y mettre un ensemble d'informations. Pas seulement si quelqu'un est vacciné ou pas, mais aussi pour éviter les discriminations, une déclaration de guérison ou un résultat de test. Et l'idée, c'est que les décisions finales soient prises en amont de la saison touristique cet été.
D'ici là, il va falloir réaliser un travail technique. Le pass pourrait prendre la forme d'un QR code. Il doit être lisible à travers toute l'Europe. Il faut s'assurer que les données médicales sont bien protégées. Des incertitudes scientifiques aussi doivent être clarifiées. Exemple, est-ce que la vaccination évite d'être contagieux ? Enfin, les États auront le dernier mot sur l'usage qu'ils veulent réserver à cet outil. Il doit permettre de franchir les frontières. Mais en France, Emmanuel Macron imagine aussi qu'il serve de sésame pour les restaurants ou les spectacles.
Merci Isabelle Horry, correspondante d'Europe 1 à Bruxelles. Et notez qu'aux États-Unis, Donald Trump a été vacciné en toute discrétion au mois de janvier avec son épouse Melania. C'est ce que révèle pour la toute première fois aujourd'hui leur entourage.
7h04 sur Europe 1. Nicolas Sarkozy fait donc appel de sa condamnation à 1 an de prison ferme pour corruption.
C'est, vous le savez, une première pour un ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, dont les écoutes ont montré qu'il se préparait avec son avocat Thierry Herzog à appuyer la candidature d'un haut magistrat pour un poste à Monaco en échange d'informations sur l'un de ses dossiers judiciaires. Bonjour Mickaël Darmon.
Bonjour.
Depuis hier, la droite fait bloc, comme le titre Le Figaro ou presque toutes les chaînes d'infos ce matin. En réalité, vous nous dites, Michael, qu'il ne faut pas se fier aux apparences.
Et oui, parce que pour beaucoup à droite, en fait, la page est tournée depuis longtemps. Hein. C'est ce que de nombreux responsables soulignent hors micro. Alors bien sûr, il y a les inconditionnels nostalgiques du quinquennat Sarkozy qui le voient toujours comme un recours. Mais d'autres rappellent qu'il a été battu par les électeurs de la droite dans la primaire de 2016 et qu'aujourd'hui, Nicolas Sarkozy est un homme d'affaires aux activités internationales peu compatible avec un retour en politique. De plus, l'agenda judiciaire de Nicolas Sarkozy reste rempli. Dans 15 jours, il doit comparaître pour le dossier des comptes de campagne. C'est l'affaire Big Malion. Alors depuis hier, le diable est dans les détails. Xavier Bertrand a pesé chaque mot de son tweet sobre. Respect et amitié au président Sarkozy. Toutes les voies de recours doivent être utilisées. C'est pratiquement mot pour mot les termes de Valérie Pécresse qui souhaite à Nicolas Sarkozy aussi de pouvoir faire entendre sa vérité en appel. Bertrand et Pécresse, candidats pour 2022 et pour incarner l'après Sarkozy.
Merci beaucoup Michael Darmon, chef du service politique d'Europe 1.
Maître Paul-Albert Ivens, bonjour.
Oui, bonjour.
En direct avec nous ce matin, ancien bâtonnier de Paris, l'un des avocats de Thierry Herzog dans cette affaire condamné à la même peine que Nicolas Sarkozy a sorti de 5 ans d'interdiction d'exercer. On parle d'un jugement historique. Vous-même, vous avez été surpris ?
Oui, parce que l'audience ne laissait absolument pas prévoir cette décision. Vos confrères qui ont assisté à l'audience dans leurs différents comptes rendus donnaient bien l'impression réelle de ce que ce dossier ne tenait pas. Et on avait véritablement l'impression que le tribunal avait été convaincu par nos explications et les preuves qu'on a amenées à l'audience.
Alors, ce que les juges ont validé, ce que le tribunal a validé, c'est aussi le fait que l'on puisse écouter une conversation entre un avocat et son client, écoute que vous considérez comme illégale.
Oui, parce que c'est un avocat qui parle à son client, il parle de différents dossiers d'ailleurs, mais essentiellement, bien entendu, de l'affaire Bettencourt. Et ce que votre commentaire tout à l'heure a oublié de dire, c'est que M. Sarkozy a perdu dans l'affaire Bettencourt, qu'il n'y a pas eu de poste à Monaco, qu'il n'y a pas d'argent là-dedans. C'est une histoire que je m'étais permis de qualifier de corne-cul au début, de discussion entre amis. Et on a pris tout cela en écoutant un avocat et son client, en extrayant des bouts de phrases pour en faire une incrimination terrible, d'ailleurs, de corruption et d'abus de trafic d'influence, qui sont quand même des mots très forts, alors que véritablement, c'est pas ça.
Le tribunal estime que le secret professionnel constitue, je les cite, hein, une garantie primordiale du procès équitable, mais que ce secret n'est pas pour autant intangible et que là, la retranscription des conversations incriminées visait un but légitime.
Oui, vous savez, le secret, malheureusement, le secret professionnel des avocats est constamment attaqué depuis des années, essentiellement d'ailleurs par la jurisprudence, pas par la loi, qui s'efforce toujours d'essayer de le protéger. En fait, aujourd'hui, le seul secret professionnel qui est garanti par la loi, c'est celui des journalistes. Et on ne peut que le regretter, parce que c'est quand même essentiel que les avocats et leurs clients puissent parler en confidentialité.
Maître, avez-vous une idée de quand pourra se tenir ce procès en appel ?
Écoutez, si l'on voit ce qui se passe habituellement, je pense que ça sera d'ici environ un an.
D'ici un an. Merci Maître Paul-Albert Ivens, avocat de Thierry Herzog dans ce dossier. Merci d'avoir répondu à nos questions en direct ce matin dans le journal de 7h d'Europe 1.
Toujours au volet judiciaire. En bref, l'ancien ministre Jean-Michel Baylet, entendu dans une enquête pour viol et agression sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans. Il est visé par une plainte pour des faits qui remontent à une quarantaine d'années. Il conteste formellement ces accusations.
L'actualité économique est une étape clé dans la réforme de l'assurance chômage ce matin.
Après deux reports, la ministre du Travail présente ses pistes aux partenaires sociaux. Les jeunes ne devraient pas être concernés par le durcissement des conditions pour avoir droit aux allocations le temps que la situation économique s'améliore. Et la baisse des indemnisations avec le nouveau calcul sera limitée par un montant plancher. Les syndicats restent vent debout contre ce projet de décret.
Tandis que les négociations sur les prix agricoles, elles, jouent les prolongations.
Oui, la grande distribution et les fournisseurs ne sont pas arrivés à se mettre d'accord. Ils avaient jusqu'à hier, mais le bras de fer va se poursuivre potentiellement plusieurs mois devant notamment le médiateur de ces prix agricoles. Deux anciens membres des forces spéciales américaines bientôt extradés vers le Japon. Ils sont soupçonnés d'avoir aidé Carlos Ghosn dans sa rocambolesque fuite vers le Liban. C'était en décembre 2019.
Et puis c'était il y a 30 ans.
Dieu est un fumeur de Havane.
L'homme à la tête de chou, Serge Gainsbourg, nous quittait. Aujourd'hui, sa maison 5 bis rue de Verneuil à Paris va devenir un musée. Et c'est ce que souhaitait de longue date sa fille Charlotte. La devanture du 5 bis est déjà un lieu de recueillement pour les fans. Mais il paraît qu'à l'intérieur, Mathieu, rien n'a bougé. Alors ils sont nombreux ceux qui attendent que le portail s'ouvre enfin, comme est allé le constater Angèle Châtelier.
J'attends avec impatience. Dès que le musée sera ouvert, je vais venir.
Isabelle, une fan de Gainsbourg, regarde l'arme à l'œil, la façade. Il y a toujours les tags, les hommages, mais ce qui dénote, c'est un panneau, un permis de construire affiché sur la droite, délivré mi-décembre. Les travaux ont commencé pour accueillir du public.
Le 5 bis n'appartiendra plus aux fans, mais appartiendra à tout le monde.
Patrick, lui, vient tous les ans se recueillir devant la maison de son idole, qu'il va avoir du mal à partager.
Il y a un côté mythe qui s'en va, il y a un côté fantasme.
Mais qui profitera, il le sait, aux commerçants du quartier, comme les bars, aux alentours où Serge Gainsbourg avait ses habitudes.
Non, je sais qu'il allait au coin là-bas, pour le comptoir des Saint-Denis. Je sais qu'il venait ici boire un verre, pour se ressourcer, pour méditer aussi.
Et pour faire ses courses, il allait dans une boucherie du quartier à quelques mètres de chez lui.
Bonjour monsieur.
Excusez-nous. On voit un tableau là de Serge, alors oui. Ça nous a interpellés.
Valérie, la co-gérante, se souvient de lui.
Il venait très souvent, il était très sympa. Voilà, décontracté, pas la grossette.
J'imagine que c'est une bonne nouvelle pour vous que la rue de Verneuil devienne un musée.
Ah oui, ça, on en est ravis. Pour les commerçants, ce sera agréable aussi d'avoir une rue qui s'anime un peu plus.
Le 5 bis rue de Verneuil devrait être accessible en petits groupes. La maison de 130 mètres carrés de Serge Gainsbourg est bas de plafond et exiguë.
Vous avez lu l'histoire de Jesse James ?
Voilà, faire la queue pour rentrer dans un lieu bas de plafond et exigu, on va devoir avoir le pass sanitaire pour aller chez Gainsbourg, c'est quand même assez ironique.
Bien vu, cela dit, je pensais à l'annonce immobilière, moi. Bas de plafond, exigu, mais ayant été habité par Serge Gainsbourg.
C'est efficace.
C'est pas mal quand même, un peu de musique ce matin.
Bonnie and Clyde. Alors voilà, Clyde.
Et Théo Manval, c'était le journal de 7h. Merci Théo, il est 7h11.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Les 30 ans de la mort de Serge Gainsbourg, donc journée spéciale sur Europe 1 aujourd'hui. Ne manquez pas Gainsbourg Forever, document audio parfaitement inédit, entièrement composé d'archives Europe 1 de Serge Gainsbourg. Pour les 30 ans de sa mort, c'est presque un tête-à-tête avec Gainsbourg que nous vous proposons. Gainsbourg, ses débuts, son inspiration, les femmes aussi. C'est à 7h40 tout à l'heure sur Europe 1. Mais avant cela, l'éclairage éco, Nicolas Barré, avant le regard international de Vincent Hervouette qui nous rejoint. Bonjour Vincent.
Bonjour Mathieu. Aung San Suu Kyi inculpée pour avoir appelé les Birmans à la résistance. Les militaires iront jusqu'au bout. Elle aussi, c'est l'Antigone de l'Asie.
A tout de suite, bon réveil sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h14 sur Europe 1.
L'éclairage éco avec la qualité de la 5G Bouygues Télécom.
Nicolas Barret est avec nous, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
Faut-il faire plus pour la relance ? Le gouvernement veut accélérer son plan de 100 milliards sans pour autant augmenter l'enveloppe. Le débat est ouvert.
Oui, alors il faut peut-être y voir un effet américain. Vous savez, aux États-Unis, Joe Biden a impressionné les autres pays occidentaux, il faut le dire, en faisant adopter un plan de relance gigantesque, 1900 milliards de dollars, ce qui fait presque 10% du PIB américain. D'où la question, notre plan de relance à 100 milliards, c'est-à-dire un peu moins de 5% du PIB, est-il suffisant ? François Bayrou, le commissaire au plan, a même carrément plaidé pour un plan à 250 milliards.
Et il s'est fait poliment retoquer par Bercy.
Alors oui, parce qu'en réalité, cette bataille de chiffres n'est pas si pertinente. D'abord, la comparaison avec les États-Unis est trompeuse parce que les plans américains intègrent des mesures sociales. Par exemple, une augmentation de l'enveloppe d'indemnisation pour les chômeurs qui sont couvertes chez nous par notre système social. La vraie question, en revanche, c'est de savoir si cet argent est convenablement dépensé et au bon rythme. Sur ce point, Bercy estime que nous n'y sommes pas encore, qu'il faut accélérer. C'est ce qu'a expliqué hier Bruno Le Maire, qui se trouve dans cette position rare d'un ministre des Finances voulant dépenser des milliards plus vite. Depuis le début de l'année, l'État dépense environ 3 milliards par mois pour la relance, 750 millions par semaine.
Et cela concerne des milliers d'entreprises.
Plus de 30 000 ont bénéficié, en effet, selon Bercy, de ces mesures. Alors, accélérer ces dépenses, pourquoi faire ? Le gros de l'effort doit porter sur la réindustrialisation. L'enveloppe prévue pour la relocalisation des industries critiques, par exemple dans la santé, va être revue à la hausse à 850 millions. De même que les subventions pour les investissements industriels, Bercy veut aussi accélérer sur un des points noirs de nos PME, la digitalisation où nous sommes en retard par rapport à nos voisins européens. Autre domaine, le plan de relance a commencé à financer le déploiement de bornes de recharge des voitures électriques sur l'autoroute. Il est prévu aussi d'investir dans de nouvelles liaisons ferroviaires, dans la transition énergétique, etc. Ce plan de relance, en fait, c'est une multitude de projets qui doivent permettre de soutenir l'économie alors que nous ne sommes pas sortis de la crise sanitaire. Alors, il est trop tôt pour dire si ces 100 milliards suffiront, mais on peut parier que plus on s'approchera de l'échéance présidentielle, plus le concours concours d'idées pour dépenser plus va s'intensifier en oubliant au passage que tout cet argent, il ne faudrait quand même pas l'oublier complètement, eh bien, nous l'empruntons.
Et nous en parlerons ce matin à 8h15. Sonia Mabrouk en parlera à Marine Le Pen, son invitée, la présidente du Rassemblement National, candidate à la présidentielle, qui a fait de la dette une de ses nouvelles priorités. On en parlait la semaine dernière. Marine Le Pen à 8h15, tout à l'heure sur Europe 1. Merci Nicolas Barré.
C'était l'éclairage éco avec la qualité de la 5G Bouygues Télécom.
Le regard international de Vincent Hervouette. Bonjour Vincent.
Rebonjour Mathieu.
Rebonjour, oui. En Birmanie, deux nouvelles inculpations pour Aung San Suu Kyi.
Oui, il y a tout un faisceau d'indices graves, précis et concordants, et même plusieurs faisceaux d'indices. Elle a été accusée hier d'incitation aux troubles publics et aussi d'infraction aux lois sur la communication. Au moins, c'est crédible. Elle a appelé les Birmans à la résistance au matin du coup d'État. Alors qu'il y a un mois, les putschistes n'avaient pas su quoi inventer, comme s'ils n'osaient pas encore l'attaquer de front. Ils avaient déniché deux prétextes farfelus pour l'enfermer. Aung San Suu Kyi était inculpée pour infraction au code du commerce pour l'importation de Tokiwoki et aussi pour avoir enfreint les règles sanitaires imposées par le Covid. Ils ne l'ont pas racketté de 135 €, ils l'ont confinée à la maison comme ils l'ont fait pendant 20 ans, de 1990 à 2010. Hier, elle a assisté à l'audience par Zoom. Les magistrats n'avaient pas de preuves, mais on sait qu'ils peuvent s'en passer.
Le vrai crime d'Aung San Suu Kyi, c'est sa popularité.
Oui, on l'a mesuré aux élections en novembre avec le raz-de-marée de la Ligue pour la démocratie. Et on le voit encore mieux depuis un mois. C'est en brandissant son portrait que les manifestants défient l'armée tous les jours. C'est en réclamant sa libération qu'ils bravent la prison ou la mort. Tout le pays manifeste et pas seulement la jeunesse, la capitale ou la majorité bamar. Et c'est parce qu'elle est immensément populaire que les généraux ont renversé Aung San Suu Kyi. Ils ont eu peur qu'elle leur échappe, qu'avec sa nouvelle majorité à l'Assemblée, elle modifie la Constitution qui leur garantit une tutelle sur l'État, c'est-à-dire les honneurs, le pouvoir et l'argent.
Pourquoi alourdir les charges contre elle ?
Pour montrer leur détermination. C'est comme tirer dans la foule. Ça fait un mois que les Birmans tiennent tête aux généraux. Le monde est au balcon via les réseaux sociaux, notamment Hong Kong et Bangkok, où les vastes mobilisations populaires n'ont mené nulle part. Aung San Suu Kyi est désormais l'incarnation de la liberté en Asie. Quoi qu'il arrive, quoi qu'elle fasse, quoi qu'en disent et en médisent les Occidentaux, l'ONU et la Conférence islamique, elle l'est d'autant plus qu'elle est écrasée par l'arbitraire d'une justice aux ordres, enterrée vivante, elle devient l'Antigone de la Birmanie.
Merci Vincent Hervouette, le regard international de Vincent Hervouette, c'est tous les matins sur Europe 1, 7h19. Vous restez avec nous tout de suite, l'édito sport de Virginie Fulpin. Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. L'affaire de la bulle sanitaire percée autour du 15 de France continue d'agiter le rugby français. Et pas seulement le rugby, hein, c'est tout le sport qui en subit les conséquences. Et
juste avant votre rendez-vous d'histoire, c'est avec Stéphane Bern, à tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
Il est 7h21 sur Europe 1 et nous retrouvons Virginie Fulpin pour l'édito sport. Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu.
Le rugby français est toujours empêtré dans son affaire de bulle sanitaire poreuse, et on n'arrive plus à dire bulle sanitaire sans mettre un qualificatif derrière. Elle
c'est
est
compliqué.
Poreuse, oui. Et pour vous, c'est le sport français dans son ensemble qui paye les pots cassés de cette histoire.
Il y a des errements qui ont des conséquences en chaîne. Ce tournoi Destination devait être une bouffée d'oxygène pour le sport français. Que le 15 de France puisse participer à ce tournoi, c'était un espoir formidable. On aurait brandi le succès de l'opération comme un étendard. Vous voyez, c'est possible de gérer une équipe et que tout se passe bien, même en temps de Covid. En fait, le rugby va juste réussir à l'étouffer un peu plus, ce secteur sportif. C'est le 15 de France qui va être le premier touché, bien sûr. Nos Bleus étaient en pleine reconquête, deux succès probants, une place de troisième nation du monde, en route pour la Coupe du Monde 2023 avec un alléchant France-Nouvelle-Zélande en ouverture. Un vrai boulevard vers le bonheur, quoi. Et là, patatras pour quelques gaufres romaines et plusieurs sorties de bulles à demi avouées, on met un coup de pied dans cet édifice en reconstruction. Les Britanniques commencent à demander un forfait des Bleus contre l'Écosse en pointant du doigt la faute de Fabien Galthié, le sélectionneur sorti assister à un match de son fils en perçant la bulle. Vu les enjeux financiers, le forfait a peu de risques de se produire. Il y a une différence entre la morale et le principe de réalité économique. En attendant, l'image des Bleus se fripe, sans parler de la cohésion de l'équipe, touchée par la gestion de la bulle, coulée par la communication hasardeuse et agressive des responsables.
Et pour vous, c'est important, ça ne touche pas que le 15 de France.
Ça met aussi certains clubs du top 14 Raptors dans la difficulté. Ils font ce qu'ils peuvent pour respecter des protocoles sanitaires lourds. Et là, on leur renvoie des joueurs positifs au Covid et débrouillez-vous avec ça. Pas étonnant que ça passe mal, hein. Et puis au-delà du rugby, c'est un coup d'épée dans le dos de tout le sport français. Des sports de salle qui attendent désespérément une ouverture de la part du gouvernement et du sport amateur à l'arrêt depuis des mois et en quête du moindre signe positif. Ça va être beaucoup plus compliqué de demander une reprise après un raté aussi monumental. Bien sûr qu'il y a des équipes qui savent rester dans leur bulle. Pour l'équipe de France de basket au Monténégro la semaine dernière, ça s'est très bien passé. Mais vous avouerez que le tournoi Destination offre une caisse de résonance autrement plus importante. La fédération de rugby doit remettre ce soir au ministère l'enquête, demander dans quelle mesure ceux qui ont fauté ont-ils pu enquêter sur leur propre faute. Ça, je ne sais pas
débat.
Trop. Exactement. Mais on ne peut qu'espérer un peu d'honnêteté. Sinon, le sport français risque de se gaufrer. Ce sera autrement plus salé que les pâtisseries romaines.
Hein. Eh bien, écoutez, on va un peu de méthode couée aussi. Hein. On va espérer un peu d'honnêteté dans ce rapport que la
bien
fédération a réalisé à son sujet. Et on va suivre évidemment ce dossier de très près, cette affaire du 15 de France qui entache tout le sport français. Merci beaucoup Virginie Fulpin, c'était l'édito sport. Et comme tous les jours à 7h24, on retrouve Stéphane Bern pour parler d'histoire. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous, bonjour Virginie.
Bonjour Stéphane.
Quand on veut évoquer une époque passée, quand parfois, avec une certaine nostalgie, on s'en souvient, vous le faites souvent en parlant de foot, hein, on utilise l'expression « ça fait des lustres ».
Ça fait des lustres, ça fait longtemps, ça fait un bail. J'avoue que je ne vois pas trop le rapport avec les grands luminaires très chics hein, qu'on trouve parfois à certains plafonds.
Ah, ne cherchez pas le rapport, hein, il n'y en a aucun.
Ah.
J'ai quand même été compté pour vous hier le nombre des lustres de la Galerie des Glaces à Versailles. Il y en a 20. Ça paraît peu comme ça, mais ils sont tous en bronze argenté. Bref,
ouais,
revenons
joue.
À nos autres lustres. Au XVIIe siècle, un lustre désignait une période de temps précise, 5 ans. C'est durant la Rome antique que naît le lustrum, une unité de temps correspondant à une cérémonie qui avait lieu tous les 5 ans. Durant cet événement, on purifiait les citoyens en les aspergeant d'eau lustrale, on procédait également à un recensement et on élisait les censeurs, comprenez les magistrats. Quand on dit « ça fait des lustres », ça fait donc plusieurs fois 5 ans. Ça peut effectivement dater, alors que juste un lustre, bah, c'était il y a 5 ans, si je compte bien. C'était en 2016, par exemple. Christophe Maé chantait « Il est où le bonheur ?»
Oui.
La primaire de la droite pour la présidentielle se préparait entre François Fillon, Jean-François Copé, Jean-Frédéric Poisson et Nicolas Sarkozy, entre autres. C'est
en
aussi
fait,
l'année
lustre,
de la disparition
de
David Bowie, George Michael, Prince et Michel Delpech. On a l'impression que c'était hier,
ouais,
et pourtant ça fait un lustre.
C'est ça, un lustre. Désormais, je l'utiliserai au singulier. Alors, ça fait un lustre, précisément. 16h, tout à l'heure. Ça, c'est dans l'immédiat, Stéphane, historiquement
oui,
vôtre.
Absolument. Cet après-midi, on réunit Pierre de Ronsard, le prince des poètes et le poète des princes. Celui qui a chanté la chanson de Prévert, Serge Gainsbourg, artiste majeur, dont on célèbre aujourd'hui les 30 ans de sa disparition sur Europe 1, et un acteur de génie, véritable icône de toute une génération qui a voulu s'essayer la poésie, Robin Williams. Leur point commun, bah vous l'avez compris, on réunit des poètes disparus aujourd'hui.
À tout à l'heure, 16h.
7h26 dans quelques toutes petites secondes. La météo avec Laurent Cabrol et un nouveau journal, Sophie Echen. Restez bien sur Europe 1. À 7h28, nous retrouvons Laurent Cabrol pour la météo.
Et quelques températures ce matin comme hier. Hein, nous avons des gelées dans les régions de l'Est, entre moins 3 et 0 degrés. Et puis 2 degrés à Lille, 3 à Rennes, 5 à Marseille, 6 à Paris et 9 degrés à Bordeaux. Telles sont donc les températures du petit matin. Dans l'après-midi, vous allez voir le thermomètre grimper. 14 à Colmar, 15 à Brest, 16 degrés à Rennes, 17 à Toulouse, à Lyon et Paris, 18 à Marseille, 19 à Clermont-Ferrand et 20 degrés à Perpignan. La couleur du ciel, eh bien ma foi, c'est le soleil qui l'emportera quasiment partout, avec une petite nuance tout de même. Le ciel sera nuageux en altitude, et sableux, laiteux, avec des vents qui viennent du Sahara, sur la Bretagne, les Pays de la Loire, le Cotentin, le Poitou-Charentes, le Limousin, le Sud-Ouest et le Golfe du Lion. Là, le ciel ne sera pas limpide dans toutes les régions que je viens de citer, avec ce vent marin qui sévit encore et ce vent du sud qui apporte la douceur que j'ai indiquée à l'instant. Voilà pour demain, mercredi, nuages et ondées sur une partie nord-ouest de la France, mais dans l'ensemble, il fera encore bon. Et puis, je le disais tout à l'heure, presque en aparté, jeudi, l'hiver revient avec des températures largement en baisse.
Ça, je ne sais pas si c'est la bonne nouvelle. Je dis l'hiver revient. Vous avez entendu Laurent Cabrol. Merci beaucoup, mon cher Laurent.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Bonjour Sophie Echen.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1, un nouveau journal, il est presque 7h30.
depuis cette attaque régulièrement. Bah, il se fait opérer opération sur opération suite aux brûlures assez graves qu'il a eues. Forcément, il ne peut pas reprendre l'activité de policier pour le moment.
C'était il y a 5 ans à Viry-Châtillon, dans l'Essonne. Deux policiers avaient failli brûler vifs dans leur voiture. Leurs 13 agresseurs sont rejugés aujourd'hui en appel. Dans ce journal, le soulagement des magistrats du parquet national financier au lendemain de la condamnation de Nicolas Sarkozy. La gauche veut faire front pour éviter à tout prix un duel Macron-Le Pen l'année prochaine. Et puis un pas vers la réconciliation à l'Olympique de Marseille. Le propriétaire du club s'est déplacé en personne pour calmer les tensions avec les supporters.
Juste après ce journal, La Touche Âme, Bertrand Chamerois. Les 30 ans de la mort de Serge Gainsbourg, document audio inédit à 7h40, c'est comme un tête-à-tête avec Serge Gainsbourg lui-même. L'édito politique de Nicolas Bétou, bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu. Pour être respecté, la justice ne doit pas être suspectée. Est-ce que le verdict dans l'affaire Sarkozy, ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire Sarkozy, n'est pas suspect?
Juste avant Nicolas Canteloup, qui conseille à sa manière l'invité politique de la matinale, aujourd'hui Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement National. Très bon réveil à toutes et à tous. Il est 7h30.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
L'affaire avait suscité beaucoup d'émotions à Viry-Châtillon dans l'Essonne. 4 policiers en observation dans leur voiture dans le quartier de la Grande Borne, attaqués par une bande de jeunes qui avaient incendié leur véhicule à l'aide de cocktails Molotov. 2 agents avaient été grièvement brûlés, c'était en 2016. Aujourd'hui, les 13 jeunes sont de retour devant la justice.
5 ans après, Europe 1 a souhaité retourner sur les lieux pour observer comment le climat entre les jeunes et les policiers avait évolué. Mais la situation n'a pas vraiment changé, Mathieu Bock.
La caméra est toujours là, solidement fixée à un lampadaire, lui-même entouré de blocs de béton. Des plaques coupantes de métal ont même été soudées afin d'empêcher quiconque de grimper. À quelques mètres de là, Karim avale un kebab avant de retourner travailler. Ce jeune père de famille vit au cœur de la Grande Borne. Il affirme que depuis l'attaque, les policiers tournent davantage, qu'ils sont de plus en plus jeunes. Au fond, c'est comme avant, dit-il.
Les rapports de police, ça n'a pas changé, hein, c'est tout le temps les mêmes. Depuis cette histoire-là, ils ont renforcé entre guillemets un peu plus la police. C'est des policiers qui sont jeunes, quasiment qui ont le même âge que certains jeunes qui contrôlent. Quand ils viennent, ils sont là en mode « qu'est-ce qu'il y a? Tu vas faire quoi? C'est des insultes ». À l'époque où il y avait les îlotiers, moi je me rappelle qu'on avait les îlotiers, c'était pas comme ça. C'était des papas, c'était des gens qui avaient une maturité. Le jour d'aujourd'hui, ils n'ont pas de maturité.
Christian Toussaint-Duvaste du syndicat Alliance dans l'Essonne regrette ce manque d'effectifs. Mais pour lui, ce drame a découragé les policiers les plus aguerris de rester ici.
On a énormément de jeunes fonctionnaires parce que l'administration n'arrive pas non plus à fidéliser les plus anciens. Qui préfèrent parfois partir en province parce que les conditions de travail, ils sont pas forcément meilleures, mais ils sont à minima plus chez eux et dans un contexte un petit peu moins belliqueux, guerrier, vindicatif que ce qu'on peut avoir sur le territoire de l'Essonne.
Alliance estime qu'il manque ainsi environ 250 policiers dans tout le département, surtout des cadres et des gradés.
Un reportage signé Mathieu Bock. Le procès en appel se tiendra jusqu'au 16 avril devant la Cour d'assises de Paris.
La campagne de vaccination contre le coronavirus devrait connaître un bon coup d'accélérateur.
Ah oui, désormais les personnes les plus fragiles, âgées de 50 ans et plus, pourront bénéficier du sérum AstraZeneca. La Haute Autorité de Santé devrait le confirmer aujourd'hui. Et puis si vous avez déjà contracté le Covid, sachez que vous n'aurez besoin que d'une seule injection du vaccin Pfizer ou Moderna. Par ailleurs, attention si vous habitez en Moselle, à partir d'aujourd'hui, test PCR ou antigénique négatif obligatoire pour se rendre en Allemagne et cela vaut pour les travailleurs frontaliers.
C'est une première dans l'histoire de la 5e République. Un ancien président condamné à de la prison ferme pour corruption.
Les défenseurs de Nicolas Sarkozy ont déjà annoncé qu'il allait faire appel. Son entourage dénonce une décision de justice sévère. Il y aura donc un nouveau procès dans un an environ, nous disait tout à l'heure l'un des avocats de la défense. Et cette condamnation représente un véritable enjeu pour le PNF, Guillaume Bié.
Ah oui, c'est peu dire que le résultat de ce procès était très attendu, hein, attendu avec une certaine sérénité affichée dans le camp de Nicolas Sarkozy, attendu avec plus d'anxiété du côté des magistrats du parquet national financier parce qu'ils jouaient en quelque sorte leur crédibilité sur ce dossier. C'était l'une de leurs affaires les plus sensibles, un dossier porté de bout en bout par le PNF, y compris malgré une possible fuite qui a fait l'objet d'une enquête interne, procédure inaboutie mais dont les répercussions créent aujourd'hui encore des remous chez les magistrats. Bien avant le procès, les accusations étaient critiquées par les soutiens de Nicolas Sarkozy. Elles ont même été pilonnées par la défense à l'audience, au point que le procureur national financier en personne était venu, lors du réquisitoire, soutenir ses deux collègues. Donc, clairement une relaxe de l'ancien président aurait été perçue comme un camouflet pour le PNF. Au final, il n'en est rien, même si les juges n'ont pas suivi les 2 ans de prison ferme requis et même si le parquet national financier devra à nouveau soutenir ces accusations lors du procès en appel.
Les précisions de Guillaume Bié, chef du service police-justice d'Europe 1. Marine Le Pen, présidente du Rassemblement national, sera l'invitée de Sonia Mabrouk à 8h15 sur Europe 1. À un an de la présidentielle, les sondages laissent entrevoir un nouveau duel contre Emmanuel Macron. Et la gauche se divise sur la stratégie à adopter. Claudia Bertram.
À gauche, beaucoup accusent le chef de l'État de faire le jeu du Rassemblement national. C'est une grenade dégoupillée, affirme un cadre du PS. Ce week-end, le patron des Verts, Julien Bayou, assure même qu'Emmanuel Macron perdra face à Marine Le Pen. Il y a 10 jours, Anne Hidalgo a débuté son tour de France en disant avoir très peur de l'issue d'un tel duel, sous-entendant que la candidate du RN pourrait l'emporter. Le Front républicain qui a prévalu en 2002 et 2017 ne semble plus si évident. C'est ce qu'il ressort d'une enquête parue dans Libération ce week-end qui a provoqué un tollé au sein de la majorité. Pour ce cadre écologiste, le duel annoncé par les sondages n'est pas une fatalité. L'objectif pour les forces de gauche et écologistes, proposer une offre politique alternative et parvenir à se hisser au second tour. Mais l'enjeu est de taille pour réussir à rassembler une gauche éparpillée façon puzzle. Pendant ce temps, dans la majorité, on reproche à l'opposition de concentrer ses critiques contre le parti présidentiel et d'épargner le RN.
Claudia Bertram du service politique d'Europe 1.
Et puis souvenez-vous, c'était le 30 janvier dernier. Les supporters de l'Olympique de Marseille qui s'en prenaient à leur centre d'entraînement, qui s'attaquaient à la commanderie. Retour au calme du côté de Marseille.
Ah oui, et pour preuve, le propriétaire de l'OM, Franck McCourt, a rencontré hier les représentants des clubs de supporters.
On a parlé un peu de l'avenir du club, l'avenir des supporters. Il nous a fait comprendre que le club n'est pas à vendre et que voilà, il voulait que ça se passe mieux à l'avenir. On s'est excusé pour ce qui s'était passé, voilà. On s'est proposé de rembourser les dégâts.
Des fois, on peut être écouté mais pas entendu. Là, je pense qu'on a été entendu, voilà. J'espère que tout le monde va repartir sur de bonnes bases, c'est ce qu'il faut pour l'OM.
Voilà des témoignages recueillis par Stéphane Frangy pour Europe 1. Et puis ce chiffre, issu d'un rapport publié par l'Organisation mondiale de la santé ce matin, près de 2,5 milliards de personnes souffriront de problèmes d'audition en 2050, soit un quart de la population mondiale. L'OMS qui plaide pour l'importance d'une meilleure prévention plus rapide de la perte auditive.
On a l'air bien, nous, en studio ici, avec nos casques au volume très élevé. Je regarde un peu autour de la table. Non, c'est moi qui mets le casque le plus fort. Il faut baisser le son, faites attention. Sophie Hachène, c'était le journal de 7h30 sur Europe 1. Merci beaucoup, il est 7h37.
Europe 1, Mathieu Béliard.
À 8h15 ce matin, c'est l'événement à Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement National et candidate à la présidentielle, invitée politique de la matinale. Elle répondra aux questions de Sonia Mabrouk. Elle n'a pas pris la parole depuis son débat avec Gérald Darmanin à la télévision il y a quelques jours. Hommage à Serge Gainsbourg dans un tout petit instant, 30 ans après sa mort. Journée spéciale sur Europe 1. Mais d'abord, la touche Cham, Bertrand Chamerois et son regard décalé sur l'actualité. Bonjour Bertrand.
Bonjour Mathieu. En venant, j'ai croisé Anne Hidalgo en train de rétro-pédaler sur son Vélib. On parle confinement à Paris dans un instant.
À tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Il est 7h40 sur Europe 1, l'heure de la touche Cham avec Bertrand Chamerois. Bonjour Bertrand.
Bonjour Mathieu.
Alors hier, lors d'un point de situation, la maire de Paris, Anne Hidalgo, s'est dite opposée à un confinement le week-end. Avec nous pour en parler, l'un de ses adjoints, Gilles Rouette. Bonjour.
Bonjour Monsieur Béliard. Attendez, excusez-moi, vous me prenez un peu de cours. J'ai pas eu le temps de m'échauffer, vous permettez? Voilà, je suis prêt. Quelle était la question?
Alors, Anne Hidalgo est donc opposée à un confinement le week-end et déclare par ailleurs n'avoir jamais proposé de confinement strict de 3 semaines pour Paris.
C'est tout à fait exact.
Et pourtant, jeudi dernier, suite au point de Jean Castex, la mairie de Paris réclamait un confinement de 3 semaines avec la perspective de tout rouvrir à son issue.
Je n'ai pas le souvenir d'avoir entendu ça. Comment vous dites confinement? Non, bah, j'ai jamais entendu ce mot.
C'est pourtant le cas.
Non, elle n'a jamais dit ça. Vous préférez pas qu'on parle de Serge Gainsbourg plutôt? Non, parce que je sais que j'avais une super spéciale à suivre. J'ai plein d'anecdotes parce que Serge, c'était Paris, c'était la rue de Verneuil.
Vous savez quoi? Pas tout de suite. Dans un instant, mais pas tout de suite. Là, je suis désolé, mais vous avez proposé un confinement de 3 semaines.
Non, elle n'a jamais dit ça. C'est pénible. Vous m'avez fait venir pour faire un monologue. Je vous dis qu'elle n'a jamais dit ça. Elle n'a jamais dit ça. Merde, à la fin. C'est son premier adjoint qui a évoqué ce confinement de 3 semaines. C'est pas la même chose. Et quand bien même elle aurait évoqué un confinement de 3 semaines, c'est interdit par la loi de revenir sur ses propos? Je ne crois pas. Vous doutez jamais, vous. Jamais à la cantine le midi, vous ne vous dites « Ah, super, de la choucroute de la mer !» avant de finalement prendre de la brandade de morue. Ben voilà, ben nous c'est pareil, nous gérons la crise de la même façon que vous hésitez à la cantine. Plusieurs plats sont sur la table et on essaie de choisir le moins dégueulasse. Uh-huh. C'est notre nouvelle stratégie. Annoncer, tester, renoncer, hésiter, s'embourber.
Vous ne prendriez pas un peu les Parisiens pour des lapins, là, depuis 6 semaines?
Non, des lapins
de 6 semaines.
Des lapins de 3 semaines, monsieur.
excusez-moi.
Je vous en prie.
À propos de stratégie, Anne Hidalgo propose aux enseignants de faire classe en extérieur dans la mesure du possible.
Oui, et elle venait d'inaugurer une cour d'école débétonisée dans laquelle on a creusé un trou rempli de copeaux de bois pour que les enfants y jouent, là, un peu comme des chats dans une litière. Et c'est là qu'elle s'est dit que le plein air, ce serait une bonne idée. Alors après, au moment où l'idée lui est venue, il faisait grand soleil et doux. Alors je sais ce que vous allez me dire, la météo se dégrade. Merci Laurent Cabrol, je suis au courant. Mais c'est quand même pas de la faute d'Anne Hidalgo si on perd 10 degrés en 48 heures, non? Le paramètre météo a été pris en compte et c'est pourquoi, avec chaque établissement, nous agirons au cas par cas.
C'est-à-dire?
Bah, au cas par cas. Une par cas par enfant, ça les protégera de la pluie. Et nous recommandons aux parents de les fournir en cache-nez, doudoune, damar et autres cagoules, parce que le moins 2 de vendredi, il va piquer, je vous préviens. Allez, sur ce, bonne spéciale, et comme dirait Serge Gainsbourg, on ira où tu voudras quand tu voudras.
Non, ça c'est Joe Dassin.
Moi je parle de Gainsbourg.
Mais oui, mais vous venez de citer l'été indien.
Non, j'ai jamais dit ça.
La touche âme, tous les matins 7h40, c'est sur Europe 1. Merci Bertrand Chameroy, et à tout à l'heure 10h, avec Philippe Vandel dans Culture Média. Il est 7h42.
Europe Matin, le 7-9.
C'était il y a 30 ans, jour pour jour, à l'annonce de la mort de Serge Gainsbourg sur Europe 1.
Serge Gainsbourg est mort seul, il n'a pas voulu ou bien il n'a pas eu le temps de demander de l'aide. Terrassé vraisemblablement par une crise cardiaque, il n'a pas répondu lorsque sa compagne Bambou et sa fille Charlotte ont sonné à sa porte peu après 11h. Ce sont les pompiers, grâce à une échelle, qui ont réussi à pénétrer dans l'hôtel particulier de la rue de Verneuil, mais il était déjà trop tard. Serge Gainsbourg avait déjà eu 2 alertes cardiaques, dont la dernière en 1989, et depuis quelques mois, il était très amaigri.
Journée spéciale sur Europe 1, et ce matin, quoi de mieux qu'un tête-à-tête avec Serge Gainsbourg lui-même. Nous vous emmenons au cœur des archives Europe 1, Serge Gainsbourg, intime dans votre radio.
Le tête-à-tête. Mathieu Béliard.
On est réceptif au bruit, au chant d'oiseaux, et au piano, cet instrument diabolique qui est le piano. Mais mon papa, quand j'étais bébé, jouait pour son plaisir Bach, Scarlatti, Chopin, Rachmaninov, Cole Porter, Gershwin, Debussy, Ravel, et j'écoutais, et ça m'a donné justement des... Il y a eu des interférences dans mon esthétique. Mais chaque jour de ma vie, j'ai entendu Scarlatti, Debussy et Bach, et Ravel, et Chopin, et Cole Porter. Je crois que ces propositions comme ça esthétiques ont dû me avoir, je dirais, des turbulences incandescentes sur mes approches sur les arts majeurs.
Quand on pense à Serge Gainsbourg, bien sûr viennent les noms Jane Birkin, Brigitte Bardot, Juliette Gréco, France Gall. Ce matin, nous poursuivons ce voyage dans les archives Europe 1. Journée spéciale Serge Gainsbourg, son rapport aux femmes.
J'ai une optique très particulière sur la question, mais je pense être un des premiers à avoir mis de la misogynie dans le domaine de la chanson.
Ce mortel ennui qui me vient quand je suis avec toi.
Enfin, j'ai mis un masque de cynique et je voudrais le retirer, je ne peux plus. Il me colle à la peau maintenant.
Tu es belle, vue de l'extérieur. Et là, je connais tout ce qui se passe à l'intérieur.
J'ai dit tout à l'heure que vous étiez déçu. Enfin, cette déception ne nous empêche pas de séduire.
Alors, bien au contraire. Parce que ça me donne une espèce de mélancolie bidon, fabriquée par les uns. Et puis, bon, des contractions dans le domaine de l'amour. Alors, tout ça, c'est marrant.
Pour me garder, ne prends qu'un dé, tant de rancune. T'as pas de cœur, y a pas d'erreur. Là, y en a une.
Vous avez des méthodes pour les séduire?
J'en mourirai, oh, n'est pas
pas de méthode, pas du tout. La fille qui s'adresse à moi est déjà séduite. Hélas.
Et puis Gainsbourg, c'est aussi la provoque, bien sûr. Point d'orgue, sa reprise de la Marseillaise, reggae, aux armes, etc.
Non, ce qu'il y a d'étonnant dans le manuscrit de Roger de Lisle, c'est qu'il écrit le premier refrain à leurs enfants de la patrie, ensuite il met le premier couplet, et ensuite il écrit aux armes, etc. J'assume ce que je fais. Dieu, la Marseillaise telle que je l'ai faite est héroïque et a son sens initial. C'est un appel aux armes.
Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils, nos compagnes.
Moi, de cette fable, c'est que j'étais prêt à reverser tout le blé que j'ai gagné là-dessus aux descendants de Roger de Lisle. Parce qu'en fait, ce sont les descendants de Roger de Lisle qui ont mis ce manuscrit aux enchères. Donc, de ma part, ça n'est pas une démarche agressive, c'est une démarche toute morale.
Et vous allez le faire, ça? Vous allez...
Tu sais quoi?
Leur reverser...
Mon cul, c'est à moi, pardon.
Je me disais aussi,
tu la vieille.
Gainsbourg Forever, un documentaire inédit réalisé par Julien Tarot grâce au service des archives Europe 1. Documentaire dont vous venez d'entendre quelques extraits et que vous pouvez déjà télécharger en intégralité. Il est sur europe1.fr. Diffusion en longueur à 20h ce soir dans Musique. Émilie Mazoyer qui ensuite recueillera les anecdotes de son fils Lulu Gainsbourg, mais aussi de Dany ou encore d'Alain Chamfort qui collabora avec lui sur 3 de ses albums. Journée spéciale sur Europe 1, 30 ans après sa mort. Hommage à Serge Gainsbourg. 7h49, l'édito politique de Nicolas Bétou dans un tout petit instant avant de retrouver Nicolas Canteloup comme tous les matins avant 8h. Bon réveil.
Europe Matin,
le 7-9.
Mathieu Béliard.
7h51 sur Europe 1.
L'édito politique de Nicolas Bétou avec la qualité de la 5G Bouygues Télécom.
Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
Vous revenez sur la condamnation de Nicolas Sarkozy à 3 ans de prison, dont un an ferme. Une date dans l'histoire des relations entre la justice et les politiques.
Pour être respectée, la justice ne doit pas être suspectée. Or, tout dans la condamnation de Nicolas Sarkozy, tout est suspect. D'abord, son histoire d'ancien président de la République et cette sourde bataille qu'il avait constamment opposée au monde judiciaire. Ce monde de petits pois, comme il l'appelait, ce qui ne lui a jamais été pardonné. Voilà pour le contexte. Même chose pour les méthodes utilisées lors de l'enquête, les juges rebondissant d'un dossier à l'autre, comme s'il leur fallait absolument une affaire sur laquelle coincer l'ancien chef de l'État. Les juges installant des écoutes téléphoniques entre un client et son avocat, un joli coup de canif dans un grand principe des droits de la défense. Et puis, un parquet national financier, émanation politique, créée par le politique François Hollande, pour traiter une affaire politique, le scandale Cahuzac, un PNF dont les objectifs sont donc par nature suspect, s'agissant de poursuivre un homme politique.
Sauf que le réquisitoire du PNF, le parquet national financier, a été en partie suivi par le tribunal.
Exact, ce qui, si je comprends bien, validerait sa sévérité, et c'est ce que se sont empressés de souligner ces magistrats. Mais ça souligne au moins autant le corporatisme de cette profession et leur union sacrée face aux politiques. Parce que, autre suspicion pesant sur ce jugement, tout cela se passe à un moment où 3 syndicats de magistrats traînent leur propre garde des Sceaux devant la Cour de justice de la République pour avoir osé initier une enquête sur, ben justement, sur les méthodes du PNF.
Et tout ça, c'est lié selon vous ?
Écoutez, le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, est un ami proche de l'avocat de Nicolas Sarkozy et c'est pour cette raison qu'il s'est retrouvé surveillé par le PNF. Oui, c'est indéniablement le même contexte et personne ne pourra démontrer le contraire. Tous sont devenus la cible d'un collectif de juges ou d'un autre. Et oui, tout cela est suspect.
Est-ce qu'à vos yeux, la justice peut en sortir affaiblie ?
Bah sûrement pas chez ceux qui n'ont jamais aimé l'ancien président de la République. Les juges tiennent enfin une première victoire et ils applaudiront. Mais dans cette large partie de la population qui apprécie ou admire toujours Nicolas Sarkozy, oui, sans aucun doute. Le plus incroyable dans ce jugement, c'est que le tribunal affirme dans sa décision que les comportements reprochés à l'ancien président de la République portent gravement atteinte à la confiance de la population dans la justice. Voilà donc un jugement à l'allure hautement suspecte qui sape la confiance dans une justice apolitique, mais qui prétend sanctionner Nicolas Sarkozy précisément pour avoir abîmé la confiance dans la justice. Ah, ils sont inventifs, les petits pois.
Votre édito tous les matins dans Europe Matin, c'est juste avant 8h. Merci Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion. 7h53.
C'était l'édito politique de Nicolas Bétou, avec la qualité de la 5G Bouygues Télécom.
Et tous les matins, nous retrouvons Nicolas Canteloup qui conseille à sa manière l'invité politique de la matinale. À 8h15, Sonia Mabrouk reçoit Marine Le Pen, la députée du Pas-de-Calais, présidente du Rassemblement National, candidate à la présidentielle. Et c'est son père, Jean-Marie Le Pen, qui est venu lui dire un mot.
Oui, bonjour, monsieur Bétou. J'ai écouté attentivement, n'est-ce pas? Mais permettez-moi de saluer mon quasi, mon presque gendre, monsieur Mathieu Blédard.
Au moins.
Oui, c'est pas innocent. Et jour après jour, je constate, n'est-ce pas, avec effroi, l'amollissement, comme l'a souligné avec à propos monsieur Gérald Darmanin, l'amollissement, disais-je, de mon Front National bien-aimé. Oui, si, Marine dit du bien de l'Europe, du général de Gaulle, refuse de soutenir mes chères petites têtes blondes de génération identitaire, et chasse maintenant les antisémites et les racistes de son parti. Bref, vous l'avez compris, monsieur Bétou, tout ce qui faisait donc le sel, le piment du Front National. Parce que, sachez-le, l'extrême droite sans extrême, c'est... Et comment vous dire, que monsieur Blédard comprenne, c'est un couscous sans harissa, un couscous sans piment, n'est-ce pas? Bref, ce n'est plus un couscous, ça n'a plus aucune saveur. Et si vous me permettez, bien sûr, cette métaphore arabo-africano-maghrébo-culinaire.
Eh bien.
Donc, je le dis à Marine, muscle ton jeu. Muscle ton jeu, si tu ne muscles pas ton jeu, tu vas avoir de graves déconvenues. Parce que tu es trop gentille, Marine.
Marine Le Pen, à 8h15, au micro de Sonia. Sonia Mabrouk et la revue de presse de Nicolas Canteloup, c'était à 8h45. On va peut-être proposer des fiches cuisine, couscous sans harissa, la métaphore arabo-maghrébo-culinaire. Merci Nicolas Canteloup, la revue de presse tout à l'heure. Il est 8h05. Laurent Cabrol est avec nous, c'est l'heure de la météo.
Oui, et depuis ce matin, vous le savez, chers amis, on demande à Serge Gainsbourg de faire la météo sur Europe 1. Serge Gainsbourg.
Sous le soleil. Pas à côté, pas n'importe où, sous le soleil, exactement.
Voilà, sous le soleil, exactement. Bon, c'est exactement le temps qu'il va faire aujourd'hui, puisque sur la région parisienne, il fera très beau, comme sur le Nord, la Normandie, la Champagne-Ardenne, Lorraine, Alsace, le Centre, la Franche-Comté, l'Aveyron, l'Auvergne, aussi, la région Rhône-Alpes, la Provence, la Côte d'Azur et la Corse. Ce sera donc une journée sous le soleil, exactement. Et puis certains d'entre vous auront des nuages, la Bretagne, les Pays de la Loire, le Cotentin, le Poitou-Charentes, le Limousin, tout le Sud-Ouest, le Golfe du Lion. Pourquoi des nuages? Bien, tout simplement parce que ce sont des nuages qui viennent du Sahara et des nuages d'altitude sableux, laiteux et qui vont envahir ces régions dans le courant de la journée. Les températures seront très douces cet après-midi. 14 à Colmar, 15 à Lorient et Lens, 16 à Trouville, à Rennes, à Verdun, Épinal. Si vous habitez Nice, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Lyon, Paris, Poitiers, Limoges, 17 degrés, c'est sympa. 18 à Marseille, 19 à Clermont-Ferrand et Hendaye et 20 degrés à Perpignan. Je dis c'est sympa mais ça ne va pas durer, je vous l'ai dit tout à l'heure. Malheureusement, demain ça sera encore une belle journée, il faudra vraiment en profiter. Ensuite jeudi, les températures vont commencer à baisser et nous aurons pas mal de nuages. Et en fin de semaine, il fera vraiment froid, ce sera un retour de l'hiver. Un retour, bon, c'est tout à fait normal.
Vous l'avez annoncé, annoncé Laurent Cabrol. En attendant, pour le plaisir. Pour le plaisir.
Soleil exactement. Pas à côté, pas n'importe où. Sous le soleil, exactement.
Quelle belle idée d'avoir convoqué Serge Gainsbourg pour la météo. Laurent Cabrol, merci beaucoup. Journée spéciale sur Europe 1, je le rappelle.